Aurélien Charles, fils de Dieu. J'ai passé la soirée avec un ancien magistrat qui a longtemps présidé une chambre de police correctionnelle et qui, devenu conseiller à la cour, s'est fait remarquer par la netteté avec laquelle il a mené les affaires d'assises grandes et petites. C'est à la tête du tribunal qu'il a lentement amassé l'expérience et le haut dédain qui ont caractérisé sa manière de présider la cour d'assises. Après avoir parlé de la situation politique, de l'impuissance de la République à améliorer le sort des classes misérables, et finalement de la réunion de la salle Lévis, où la révolution spéciale a été proclamée. « Proclamez la révolution sociale !» s'est écrié l'ex-magistrat. « C'est comme si l'on proclamait le mouvement terrestre et le cours des planètes. La révélation sociale a commencé le premier jour de la première société et ne s'est jamais arrêtée. Les moyens extrêmes et expéditifs dont parlait hier un orateur ne sont pas plus nouveaux que les souffrances du prolétariat. On sait à quoi conduisent ces moyens. Ils ne soulagent la masse qu'en la diminuant. Il est certain que si sur 50 000 insurgés, 25 000 restent sur le pavé, les 25 autres 1000 survivants ont une plus grande somme de travail à se partager et partant plus de bien-être. Sous le premier empire, il n'y avait ni souteneur, très, ni roueur, rôdeur de barrières, parce que tout le monde avait le sac au dos. Le shako sur la tête, et s'en allait faire le coup de fusil sur tous les points de l'Europe. C'est à peine s'il restait assez de vieillards, d'enfants et d'estropiés pour la besogne agricole et industrielle du pays. Et au milieu de ces guerres sans cesse renouvelé, le travail n'a pas manqué un seul instant. On était pauvres, accablés d'impôts extraordinaires, de réquisitions de toutes sortes, et cependant, on vivait. On vivait parce qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de morts. Napoléon aussi employait des moyens extrême et expéditif. La guerre des rues ne vaut pas mieux que la guerre lointaine. L'une et l'autre affaiblissent le pays, épuisent ses finances, diminuent ses ressources. Alors il n'y a donc pas de justice sociale à espérer. L'équilibre finira bien par s'établir, mais scientifiquement et non violemment. Il est certain que le jour où, devenu maître de l'électricité, l'homme pourra voyager, partir, transporter ses marchandises sur des chemins sans limite, à 1000 mètres au-dessus du sol, il n'y aura plus de douaniers, partant plus de frontières. La suppression des frontières, c'est la suppression de la monarchie, car les rois, les princes ne sont que les conservateurs intéressés des nationalités. Le fou qui s'écrie aujourd'hui « Plus de patrie !» ne fait donc que dénoncer l'avenir. Vous parliez de justice, mais la justice n'est qu'un mot. Au-delà de trouve nulle part dans la création, ou plutôt dans la nature, car le mot de création est un non-sens. tout en bas de l'échelle animale. Tout se détruit, tout se dévore. Le monde sensible semble être une intention. Le monde semble une invention du génie du mal. L'empire est à l'atrocité. Aux petits oiseaux, l'aigle, le vautour, l'épervier. Aux petits poissons, la baleine, le requin. 10 races de gloutons et de destruction. Aux agneaux, le loup. Aux poules, le renard. À la gazelle, le lion et le tigre. Et aux hommes, l'homme. Oh, il n'y a du reste ni coupable ni criminel. Ben, cependant, vous avez condamné bien des... S'accusez-vous à la prison et à la mort. Mais pour sauver le plus grand nombre possible des atteintes de quelques-uns. Les magistrats sont des lieutenants de louveterie. La police et la gendarmerie organisent des battues de voleurs et d'assassins comme on organise des battues de renards et de sangliers. Au fond, l'humanité vicieuse et corrompue, criminelle, ne fait que suivre sa voie. C'est la loi de l'atavisme, une tendance générale de l'homme, des animaux et des plantes, à retourner au type primitif. Les voleurs descendent des compagnons de Romulus. Les hommes qui ont des goûts contre nature remontent par une ascendance possible à reconstruire au foudroyé de la Somme et de Gomorre, Sodome et de Gomorre. Si vous parvenez à rétablir l'arbre généalogique des demoiselles Giraud de notre époque, vous les ramènerez à leur berceau, qui fut Lesbos. On reproche aux Juifs de dédaigner le travail manuel. Ce n'est pas leur faute si ce travail leur répugne. Ils ont conservé le goût des nomades, allant devant eux avec leurs troupeaux et portant leurs tentes là où ils trouveraient des pâturages et de l'eau douce. Toutes les races sont logiques. Et moi qui vous parle, je descends certainement de Ponce Pilate, d'Hérode Antipas ou de Caïphe, car il n'y a pas longtemps, j'ai condamné Dieu. Comment cela? L'humanité n'est pas aussi vieille qu'elle le prétend. Il n'y a que 1880 ans, 15 ans, que Jésus-Christ a été supplicié. Superposer la vie de 38 hommes ayant vécu chacun 50 ans, et vous êtes ramené à l'époque du rachat du péché originel. Eh bien, il y a de cela, 2 ou 3 ans, un révolutionnaire comparu devant la cour d'assises de... Il était signalé comme un homme de plus dangereux. Il avait conspiré en Russie avec les nihilistes, en Irlande avec les fainéants, en France avec tous les révolutionnaires et tous les socialistes, de nuances diverses et de moyens différents. La cour le condamna à mort. Et il a été exécuté, pas en France au moins, car il trouva moyen de s'évader. Mais on m'a affirmé qu'il avait été pendu dans une petite ville de Russie. Les papiers trouvés chez lui étaient restés entre mes mains. Et en examinant avec soin, j'ai retrouvé une légende qui m'a toujours laissé rêveur. Vous avez lu la vie de Jésus de Renan? Oui. Et Sainte Marie Madeleine du Père Lacordaire? Également. Mais permettez-moi de vous en rappeler de mémoire certains passages. Même de nos jours, Nazareth est encore un délicieux séjour, le seul endroit peut-être dans la Palestine où l'âme se sent un peu soulagée du fardeau qui l'oppresse au milieu de cette désolation sans égale. L'horizon de la ville est étroit, mais si l'on monte et qu'on atteigne le plateau, caressé d'une brise perpétuelle, la perspective est splendide. À l'ouest se déploient les belles lignes de Carmel, terminées par une pointe abrupte qui semble se prolonger dans la mer. Puis se déroulent les montagnes du pays de Sielem et de Tabor, avec sa belle forme arrondie. On entrevoit la vallée du Jourdain et les hautes plaines de la Pétrée. Au nord, les montagnes de Safed, en s'inclinant vers la mer, dissimule Saint-Jean d'Acre, mais laisse dessiner aux yeux le golfe de Gaïta. Tel fut l'horizon de Jésus. Et plus loin, Renan nous dit, il n'y avait aucune affectation extérieure, ni montre d'une austérité. Un de ces miracles fut fait pour égayer une noce de petite ville. Les noces en Orient ont lieu le soir. Chacun porte une lampe. Les lumières qui vont et viennent sont un effet fort agréable. Jésus aimait cet aspect gai et animé. La religion naissante fut un mouvement de femmes et d'enfants. Toute la vie de Jésus fut une vie d'indulgence, de bonté, d'amour. Élevé dans le doux paysage de Nazareth, il en sortit pour prêcher tous les pardons et osa absoudre même la femme adultère. Le village de Béthanie, à 1 h 30 de Jérusalem, était le lieu de prédilection de Jésus. Il y fit la connaissance d'une famille composée de 3 personnes, 2 sœurs et un frère. Des 2 sœurs, l'une, nommée Marthe, était une personne obligeante, bonne, empressée. L'autre, au contraire, nommée Marie, plaisait à Jésus par une sorte de langueur. Souvent, assise aux pieds de Jésus, elle oubliait à l'écouter le devoir de la vie réelle. Or, voici ce que raconte le père Lacordaire. Marie laisse tomber ses cheveux autour de sa tête, faisant de leur tresse magnifique un instrument de sa pénitence. Elle essuie de leur soie humide les larmes qu'elle répand. Elle a frappé le disciple de l'amour, tout initié qu'il était aux secrets extérieurs, intérieurs de l'Holocauste, et voulant transmettre aux siècles à venir le signalement de Marie, n'a rien trouvé de mieux pour la peindre et faire reconnaître que c'est elle, de lui dire d'elle, oh, c'était cette Marie qui oignait le Seigneur d'un parfum et qui en essuya les pieds avec ses cheveux. Cela fait, la pécheresse s'enhardit, elle approche des pieds du Seigneur ses lèvres déshonorées et les couvre de baisers. pécheresse encore, elle a reconnu Dieu dans la chair du Fils de l'homme. Elle prend dans un vase d'albâtre un parfum précieux. Peut-être avait-elle déjà cherché dans ce vase un accroissement de ses honteux plaisirs. Alors, sans doute, l'homme oublia le Dieu. Enivré, il eut son instant de triste faiblesse et il succomba. Après quoi, grave et repentant lui-même, il s'écria « Simon, j'ai quelque chose à te dire !» Et Simon lui dit « Maître, dites !» Et se tournant vers la femme, il dit à Simon « Tu vois cette femme ? Beaucoup de péchés lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. » Eh bien, reprit-il, l'homme que j'ai condamné et que les bourreaux du Nord ont supplicié se nommait, d'après les pièces de l'état civil, Simon Christ de Béthanie. Il n'y avait pas à dire. Le nom s'était transmis de père en fils. Extrait de naissance, note, manuscrit gothique, palimpseste, en faisait foi. Ce révolutionnaire, ce socialiste, ce martyr était issu de cette île d'oubli ou de sacrifice pendant laquelle celui qui s'était fait homme avait connu la faiblesse de la chair. Et le 38 descendant, celui que j'avais condamné, était le dernier. Le petit-fils du Christ et de celle à laquelle il devra être beaucoup pardonné parce qu'elle avait beaucoup aimé. Cet accusé de cour d'assises, ce condamné de France, ce supplicié de Russie, en faisant la part du sang des 38 mères, était un 76e de Dieu. Et l'ex-président me regarda d'un air égaré. Voilà pourquoi, ajouta-t-il, je n'ai plus jamais voulu juger personne.